Dutrisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
Et les élèves du secondaire sont en classe depuis hier, puis il y a plein de questions qui reviennent sur la sécurité, sur la contamination, les éclosions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger mieux? Encore une fois, avec nous, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, monsieur Dutrisac.
Bon, ben, êtes-vous de meilleure humeur aujourd'hui ou ça va-tu aller? C'est correct?
Écoutez, les élèves retournent en classe.
Ouais.
On est une bonne humeur prudente, je vous dirais.
Ouais. Il y a bien des questions. Hier, je parlais à Marois Risky, monsieur Roberge, là. Puis, elle a fait comme une liste de questions. Puis, j'aimerais ça qu'on passe à travers ensemble. Pour clarifier des affaires. Bon, ben parfait. D'abord, elle disait, Marois Risky, hier, que les tests de qualité de l'air là avaient été effectués par votre ministère, pas la santé publique, dans des classes vides à 7h30 le matin. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment, selon vous?
Oui, beaucoup de raccourcis dans une même affirmation. Là. Ouais. Les tests ont été faits par des fois des firmes externes spécialisées dans la gestion de la qualité de l'air, des fois des employés des centres de services scolaires qui ont reçu la formation avec des appareils calibrés selon les protocoles validés par les experts de la santé publique. Donc, fallait le faire selon ce que la santé publique nous a dit. Il y a eu 3 prises d'air dans 1369 classes, je pense, là. Donc, 3 fois, le matin pour l'arrivée des élèves, après ça, au milieu du cours, et puis à la fin du cours, et puis entre la prise 2 et la prise 3, il y avait une ouverture des fenêtres, comme ce qui se passe depuis le début de l'année. Donc, les protocoles ont été suivis, puis les tests sont valides.
Ouais. Est-ce qu'on sait dans quelles écoles ça a été mené, ces tests-là? Est-ce qu'on peut le dire?
Écoutez, il y a 330 écoles et chaque centre de service scolaire va rendre public chacun des résultats des tests. La directive là, est partie au milieu de la semaine passée déjà pour dire qu'on doit rendre public les résultats de tous les tests, ceux qui ont été faits en décembre et ceux qui vont être faits aussi dans les prochaines semaines parce que toutes les écoles vont être testées.
Ouais. On s'était chicané sur la contamination par aérosol. Vous n'y croyez pas. On parle du 17 décembre dernier. J'ai pas besoin de faire jouer l'extrait, monsieur Robert, je vais vous en souvenir. Là, tout à coup, les comités d'experts ont dit, ouais, ça se peut que ça soit une des causes principales de contamination. Là, vous en êtes où dans votre réflexion?
Ben, écoutez, c'est pas tellement important. Moi, ce que je pense, c'est l'avis des experts de la santé publique. On attendait avec beaucoup d'impatience à ce moment-là le rapport du docteur Massé et des 20 experts consultés. Il y avait déjà dit le fond de sa pensée en commission parlementaire quelques jours auparavant là aux députés qui l'avaient questionné. Il a rendu public son rapport en début janvier, puis c'est assez clair là, d'après le rapport des experts, que oui, il peut avoir de la contamination, comme on dit, par aérosol, mais il faut s'entendre, dans un rayon de 2 mètres, comme on le dit depuis le début. Là, l'idée que des particules de COVID flottent dans l'air sur 3, 4, 5 mètres, restent en suspension et là, aille infecter quelqu'un, c'est pas la conclusion auquel sont venus les experts de la santé publique. On dit, ça se peut, là, ce type de contamination-là, mais surtout avec la rougeole, la tuberculose, mais la COVID se comporte différemment.
Pourquoi vous avez dit le 18 décembre, après qu'on soit parlé, là, que le débat sur les purificateurs d'air qu'on retrouve dans les écoles anglophones et les écoles privées au Québec, c'était devenu une question politique et même de lobby?
Ben, c'est parce que ce que je voyais, c'était que, particulièrement les oppositions, mais je dirais surtout au Parti libéral, là, ils avaient l'air d'avoir fait leur nid avant d'avoir l'avis des experts de la santé publique. Donc, avant d'avoir l'information, ils ont décidé de prendre position, se sont enfermés là-dedans. Puis après ça, une fois que le rapport sort, ils sont comme coincés pour rester avec cette position-là. Moi, je pense que fallait être prudent. Puis maintenant que le docteur Massé et la santé publique ont rendu on dit que c'est un rapport avec des conclusions, là, mais c'est 3 études qui sont toutes disponibles sur Internet. Mais je pense qu'il faut se rallier au consensus scientifique, puis s'assurer de ventiler nos écoles correctement, puis s'assurer de protéger la santé des élèves comme on le fait.
Mais ventiler
avec le port des masques.
Mais ventiler à moins 17, monsieur Roberge, là, on va ouvrir les fenêtres. Parce que pourquoi vous êtes boqué avec les purificateurs d'air? Parce qu'il y a d'autres études qui sortent, puis on s'en est parlé, puis peut-être que monsieur Massé, il sait pas de quoi il parle, parce qu'il y a d'autres études scientifiques qui disent c'est pratique, c'est utile, et ça peut participer à l'effort de contrôler les éclosions. Mais à Québec, au Québec, nous, on est fait différemment. Puis on est boqué, comme M. Arruda était boqué avec les masques au mois de mars dernier. Puis on dit non, alors qu'ailleurs, on dit oui. En Ontario, on dit oui. À New York, on dit oui. En France, on dit oui.
Écoutez, pour faire le tour de cette question-là, on a demandé à un comité d'experts, même de consulter d'autres experts, donc la santé publique, le docteur Massé, docteur Arruda, sont allés chercher 20 personnes, notamment la directrice de la chaire en ventilation et en épidémiologie de l'Université Laval. Et tout ce monde-là, après une recension des études et en regardant le contexte scolaire, nous ont dit c'est pas une bonne idée d'installer ce qu'on appelle des purificateurs d'air. Les meilleures solutions, c'est celles qu'on applique, c'est les groupes stables, c'est les bulles de classe, c'est le port du masque de procédure avec lequel on est arrivé en janvier et qu'on fournit aux élèves. C'est dépistage rapide, c'est fermer les classes quand on voit qu'il y a des élèves qui ont la COVID dans la classe. Et on applique toutes ces mesures-là.
Ouais, dernier bilan, M. Robert, je fais état de 24 éclosions dans le réseau scolaire. On peut pas dire que, tu sais, là, aujourd'hui, on apprend que les masses sont trop grands pour les élèves. Il me semble qu'on est toujours dernière minute. Il me semble que les masques, Marois Risky me disait, elle vous en a parlé au mois d'août dernier, avant la rentrée scolaire, puis vous avez dit non, la santé publique y croit pas, puis c'est toujours pas. Puis là, tout à coup, on y croit, rendu au mois de janvier 2021.
Ben là, non, c'est faux, là, cette affirmation-là. On a imposé le port du masque dans les lieux publics, les lieux communs à partir du mois de juillet 2020. Le masque était présent en classe depuis septembre. Là, on arrive avec les masques de procédure qui offrent une protection plus grande que les autres masques. C'est vrai que dans certains cas, quand les élèves sont plus petits en secondaire 1, les masques de procédure demandent un ajustement, mais bon, c'est pas la mer à boire de faire un petit nœud derrière l'élastique. Et ce que nous disent les experts, c'est que même s'il n'est pas parfaitement ajusté, ça offre une protection supérieure que les autres couvre-visages standards qu'on puisse procurer. Donc, c'est un facteur de protection supplémentaire avec lequel on arrive par rapport à l'automne. Puis c'est vrai qu'il y en a eu des cas de COVID là, dans les écoles pendant l'automne, mais ça a été, somme toute, bien contrôlé. On a réussi à garder 97-98% de nos classes ouvertes tout le temps de l'automne. Ça, là, c'est un défi que tout le réseau a relevé.
Ouais. Vous savez, les citoyens là, de l'autre côté du micro, là, ici, là, c'est la confusion, là, parce qu'il y a des experts qui disent faut pas ouvrir les écoles. Il y en a d'autres qui disent au contraire, faut les ouvrir. Tel jeune dit, ben là, il y a des jeunes en détresse, presque 30%. On entend plein d'affaires. Est-ce que on a politisé la COVID-19 au Québec?
Non, je pense pas qu'on a politisé la COVID. Le gouvernement doit prendre des décisions. C'est sûr qu'on s'en sort pas. On veut que notre gouvernement, que les élus prennent des décisions, mais on veut qu'ils se basent sur les avis sérieux de la santé publique. C'est ce qu'on fait, puis honnêtement, la réouverture des écoles, c'est le plan numéro un. C'est ce qu'on doit faire, à moins vraiment là d'avoir des éclosions monstres, puis de perdre le contrôle. Mais on doit garder nos écoles ouvertes. On dit que c'est bien sûr important pour la socialisation, pour les apprentissages. C'est un facteur de protection aussi. J'avais des conversations avec le ministre de la Santé et Services sociaux délégué, M. Lionel Carman, qui nous disait que quand les écoles sont fermées, le nombre de dénonciations de la DPJ chute de manière dramatique. Ça veut dire des élèves, des enfants à la maison, parfois sont maltraités, ils sont coincés là. Mm. Et quand on réouvre les écoles, bon, on est capable d'offrir du soutien à ces élèves-là, puis de faire intervenir la DPJ. C'est un autre facteur important, une autre bonne raison pour garder nos écoles ouvertes. C'est les meilleures places. Les écoles sont les meilleurs endroits pour nos élèves.
Oh oui. OK, deux, trois affaires rapidement, M. Roberge. D'abord, à quel moment de la journée, parce que là, il y a deux masques de procédure fournis. À quel moment ils doivent être distribués? Puis à quelle fréquence ils doivent être portés? Puis est-ce qu'il y en a un pour le matin, puis un pour l'après-midi, puis un pour le lunch? Puis comment vous avez déterminé ça? Comment vous déterminez ça?
Bien, grosso modo, on coupe la journée en deux. Là, vers le midi, les élèves changent de masque. Les écoles sont en train là, de s'habituer à faire la distribution des masques. Je sais que dans certaines écoles, ils ont dit, bon, on va les distribuer à tous les jours. D'autres écoles disent, on va donner une boîte à la famille. Mais l'idée, c'est que même dans l'autobus, là, en se rendant à l'école, on doit porter le masque de procédure. Puis voilà, donc c'est deux par jour. On considère qu'à deux par jour, là, on satisfait à toutes les normes. Puis les élèves vont pouvoir en disposer dans des bacs là, qui sont en train de s'installer dans les écoles.
Donc c'est un matin puis un soir, un l'après-midi.
Bon, on coupe la journée en deux. Normalement, là, au dîner, on change de masque.
Bon, puis les élèves de 3e à 5e secondaire vont encore faire l'école de la maison une journée sur deux quand ils sont en zone rouge, mais il va falloir qu'ils portent aussi le masque pour retourner à l'école.
Oui, exactement. C'est la situation de la plus jeune de mes deux filles, là, qui est en secondaire 3, puis qui hier a fait ses cours à la maison. Et elle avait très hâte là, d'aller aujourd'hui à l'école. Donc, elle est partie avec son masque maison ce matin, là, parce qu'elle n'avait pas encore reçu son masque de procédure. Mais s'est rendue à l'école aujourd'hui pour revoir ses amis enfin, puis revoir ses profs. Puis okay. Elle savait très bien qu'en arrivant sur le site de l'école, elle recevoir son masque de procédure, comme tout le monde.
C'est parce que là, il y a des parents qui se font dire, d'abord, le couvre-visage artisanal, c'est pas le bienvenu. Ça prend le masque de procédure. Et l'autre affaire qu'on entend aussi, c'est des parents qui se font dire que le deuxième masque doit être gardé pour le transport scolaire, puis qu'ils doivent mettre un masque à l'école toute la journée. Comment on démêle ça, là?
Bien, comme je vous dis, les écoles vont donner les consignes, mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur de la journée, il y a suffisamment d'heures pour penser qu'un seul masque ne serait pas suffisant. Donc, on divise la journée en deux, puis les élèves ont toujours un masque comme ça qui n'a pas été porté trop d'heures, là, parce qu'on sait qu'au fil des heures, si jamais l'élève est porteur de COVID, le masque peut jouer moins bien son rôle. Donc, on va laisser aux écoles là, de dire à quel moment précis changer de masque. Mais l'idée, c'est de couper la journée en deux. Puis effectivement, dans le transport scolaire, on porte le masque de procédure. Ça peut être celui tout neuf qu'on déballe de chez soi le matin ou celui qu'on a reçu hier en fin de journée qui est encore neuf parce qu'on l'a porté très peu de temps. On le porte dans l'autobus le matin.
Là. Qu'est-ce que vous allez faire en conclusion pour le décrochage scolaire? Là, on annonce que vraiment, ça va pas bien. Au cégep, c'est Mme McCann, là, mais vous, au primaire et au secondaire, est-ce que vous avez un plan de match? Est-ce que vous avez un mode d'intervention?
Oui, tout à fait. Mais d'abord, on a ajouté beaucoup de ressources depuis le début de l'année, mais je comprends que c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a annoncé vendredi dernier qu'on mettait sur pied un programme de tutorat très important. On va ajouter des centaines et des centaines de milliers d'heures de tutorat. Donc, les enseignants vont pouvoir cibler les élèves qui en ont le plus besoin. Puis, ces enfants-là, ces adolescents-là vont être pairés à des élèves, à des tuteurs, parfois des étudiants là, des sciences de l'éducation, qui vont être capables de leur donner un petit coup de main. Il va avoir aussi du soutien en santé mentale, ceux qui dépriment un peu, qui ont hâte de retrouver la vie normale. Donc, on va essayer de donner un coup de main pédagogique, mais aussi en santé mentale, là, puis ça va déployer vraiment dans les prochaines semaines.
Ça, c'est à distance, là?
Oui, ça va se faire à distance.
OK. Les tests rapides, ils vont rester dans les entrepôts. On les utilise pas dans les écoles. Il y en a encore une fois, M. Robert, il y en a qui disent pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas les on les a de toute façon, là?
Ben, il y a un projet pilote, là, qui a été annoncé dans une école de Montréal où on va déployer les tests rapides, mais avec d'autres tests. Pour voir vraiment l'efficacité des tests rapides, parce qu'en ce moment, c'est pas rassurant là, ce qu'on sait de ces tests rapides-là. Il y a beaucoup de faux négatifs, de faux positifs. Ils sont surtout efficaces quand les jeunes ont des symptômes. Sauf que quand ils ont des symptômes, ils sont renvoyés à la maison par mesure de précaution. Donc, on s'entend que c'est pas là, la chose la plus utile. Si on est capable de trouver des tests rapides qui vraiment sont efficaces pour dépister les jeunes qui sont asymptomatiques, ben là, ça nous rendrait de grands services. Puis on est en train de vérifier ça.
Mais vous trouvez pas que des projets pilotes en janvier 2021, presque un an après le début de la pandémie, c'est encore une fois en retard?
Ben si ça n'a pas été implanté avant, c'est parce que les preuves scientifiques nous disaient de ne pas les implanter. C'est un projet pilote, c'est pour voir de quelle façon on est capable de surmonter des obstacles scientifiques, de trouver des façons ingénieuses de les utiliser le mieux possible. Ça ne veut pas dire justement qu'on n'a pas agi, c'est qu'on a agi en fonction de la science. Vous savez, okay. Des fois, quand ça a l'air trop simple, là, puis que ça s'énonce en un tweet ou en trois phrases, ouais. C'est peut-être pas valide scientifiquement. Des fois, il faut prendre un peu plus de temps pour faire les choses un peu mieux.
Je comprends. Faites-vous confiance aveugle au docteur Arruda et son équipe?
Je fais confiance à nos experts de la santé publique.
Très bien. Monsieur Robert, merci d'être venu à l'émission. On va sûrement se reprendre.
Avec plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir.